RFI minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité française.
Christophe Paget.
À Nantes, dans l'ouest de la France, une lycéenne a été tuée et 3 autres élèves blessés, dont une grièvement, à coups de couteau. L'agresseur a été arrêté, lui aussi est un lycéen. Après avoir été examiné par un psychiatre, il a été hospitalisé. Fin de la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. À Madagascar, le président français a annoncé la création d'une commission mixte d'historiens qui vont travailler sur la très violente répression par l'armée française de l'insurrection de 1947 qui avait fait des dizaines de milliers de morts. La France, qui a été condamnée ce jeudi par la Cour européenne des droits de l'homme, l'État français est accusé de ne pas avoir protégé de façon adéquate 3 mineurs qui avaient porté plainte pour viol et qui n'avaient pas été entendus. Dans une douzaine de minutes, nous avons rendez-vous avec Paul McCartney, enfin avec l'auteur de bande dessinée Hervé Bourris, qui se penche sur les 4 années qui ont suivi le départ du divin bassiste des Beatles. Quant au journal des Outre-mer, on s'intéressera à la conférence fiscale et sociale lancée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
RFI.
François Bayrou demande une intensification des contrôles mis en place aux abords et au sein des établissements scolaires. Et sous 4 semaines, des propositions concrètes autour des violences commises par des mineurs avec des armes blanches. Ce jeudi, à Nantes, dans l'ouest de la France, une lycéenne a été tuée et 3 autres blessés à coups de couteau par un élève. Ça s'est passé vers 12h30 dans le collège lycée privé Notre-Dame de Toute-Aide. L'élève a été maîtrisé par des enseignants puis arrêté par la police. Un périmètre de sécurité a été mis en place, surveillé par la police et par les militaires de Vigipirate. Avant cela, les élèves avaient été évacués, parmi eux, Martin. Avant l'attaque, comme d'autres camarades, il avait reçu un long email de l'assaillant où il était question, entre autres, de conditionnement social et d'écocide.
À 12h15, tous les élèves du lycée ont reçu, je ne sais pas si les enseignants aussi, mais on a reçu un mail donc de l'élève en question qui a fait les actes. Donc c'était un mail de 13 pages avec des grands textes et quelques illustrations. On n'a pas le temps de le lire, c'est très long, mais c'est un mail qui dit qui parle de la société actuelle, etc. Ça montrait que c'était prémédité ce qu'il allait faire. Ça s'est passé entre 12h15 et 13h, après j'ai pas l'heure exacte. Et donc après, nous on était en cours, hein, mais on a été prévenus que lors de la sortie des cours. De ce que j'ai entendu, il y a eu une petite alarme, mais donc quand on est sorti, puis après effectivement on a vu toutes les forces de l'ordre et les pompiers, le SAMU, le SMUR et tout ça arriver. Pour nous c'est absolument choquant, hein. On est dans un lycée qui a d'habitude des pourtant très calme, il n'y a jamais eu de problème de ce type là, même des problèmes mineurs. Là de voir en plus une élève décédée, une camarade, ça nous a fait vraiment froid dans le dos, hein. Il y a eu des pleurs, etc. Enfin, c'est vraiment vraiment très choquant pour nous.
Un témoignage recueilli par Quentin Meunier. Les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, Bruno Retailleau et Élisabeth Borne, se sont rendus sur place, à Nantes. Bruno Retailleau affirme qu'il ne s'agit pas d'un fait divers, mais d'un fait de société. Une société qui, affirme-t-il, a encouragé le laxisme. De son côté, la maire de Nantes, Johanna Roland, insiste, l'heure n'est pas à la politique. Et elle pose la question de la santé mentale des jeunes dans le pays. De fait, le suspect, après avoir été examiné par un psychiatre, a été hospitalisé. Et il s'agit maintenant de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi l'enquête a démarré. Écoutez Christophe Miette, le secrétaire général du SCSI-CFDT, le syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
L'enquête en cours qui a débuté avec des prélèvements ont été faits. On sait également que des perquisitions vont avoir lieu à son domicile. Son entourage va être auditionné également. L'exploitation de tous les réseaux numériques sur lesquels il a pu se rendre va être faite. Une cyber-enquête va être faite sur son téléphone, ordinateur et les différents réseaux qu'il a pu utiliser. Il va avoir aussi, et ça a débuté avec les lycéens et le personnel d'établissement qui ont été confinés, une première vague d'enquête et d'enquêteurs ont été réalisés au niveau de l'établissement pour essayer de récolter des premiers éléments d'enquête de voisinage, comme on appelle, savoir s'il s'était confié sur ce parcours criminel, savoir s'il s'était confié sur ses intentions et la manière de faire, ou savoir s'il avait des griefs avec d'autres personnes. Donc c'est tout ça qui est en train d'être remonté, qui a débuté.
Christophe Miette, joint par Sylvie Coffi.
24 heures en France.
Fin de la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. Aujourd'hui à Madagascar, le président français a annoncé la création d'une commission mixte franco-malgache, commission d'historiens, qui vont travailler sur la très violente répression de l'insurrection de 1947 par l'armée française. Madagascar était une ancienne colonie française. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Le président français a expliqué vouloir créer avec cette commission les conditions du pardon de la colonisation. Emmanuel Macron qui a ensuite défendu devant la commission de l'océan Indien l'intégration de Mayotte, bloquée par les Comores. Mayotte restait française lorsque les Comores sont devenus indépendants en 1975. Envoyé spécial à Madagascar, Valérie Gasse.
Emmanuel Macron a redit devant les dirigeants de la commission de l'océan Indien sa principale attente.
Nous ne pouvons pas laisser un territoire et ceux qui y vivent à l'écart d'un certain nombre de nos programmes. Je pense bien évidemment à Mayotte et je sais pouvoir compter sur l'engagement de tous pour avancer de manière pragmatique.
Un message auquel le dirigeant des Comores a répondu immédiatement en affirmant que Mayotte était comorienne, comme une fin de non-recevoir, à la demande du chef de l'État qui avait emmené avec lui des élus maorais pour tenter de montrer sa détermination et de lier les enjeux nationaux et internationaux. Car à Madagascar, Emmanuel Macron était en offensive diplomatique. L'océan Indien est un espace de solidarité sur lequel compte le président français.
L'état du monde nous impose encore davantage de nous unir autour de cette culture et d'en faire le carburant de notre méthode multilatérale.
Dans un monde où les alliances sont en train de se réorganiser, Emmanuel Macron est à la recherche de nouveaux partenaires pour soutenir ses initiatives et notamment le sommet sur les océans qu'il va réunir à Nice en juin.
J'encourage tous les États qui ne l'ont pas encore fait à ratifier ce texte majeur, traité pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine.
Un appel aux dirigeants de l'océan Indien à créer une communauté de solidarité qui se heurte encore à l'obstacle des intérêts particuliers. Valérie Gasse, Tananarive, RFI.
La France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Condamnation pour la réponse apportée par la justice française à trois jeunes filles, trois mineures de 13, 14 et 16 ans, qui avaient dénoncé en vain des viols. L'État français est accusé de ne pas les avoir protégées de façon adéquate, de ne pas avoir pris en compte leur vulnérabilité au moment des faits ou encore l'absence de consentement. Les trois requêtes ont été déposées indépendamment, mais la CEDH a rendu un arrêt unique pour ces trois affaires et elle a condamné la France à leur verser des dommages et intérêts. Marie Cazadebé a recueilli le témoignage de l'une des victimes.
En 2013, Manon porte plainte pour des faits de viol remontant à 2008. Elle avait alors 16 ans. Mais son affaire n'a jamais donné lieu à un procès.
Mon affaire n'a jamais été jugée. Mon affaire a été classée par un procureur de la République. Et ensuite, j'ai fait appel, j'ai saisi un juge d'instruction. Ça a été classé et classé et classé.
Qu'est-ce qu'on a pu vous dire ?
Principalement que mon agresseur n'avait pas l'intention de me violer. En fait, il reconnaît les faits, il reconnaît que j'ai dit non, mais il n'avait pas vraiment l'intention de me violer.
La CEDH estime que la justice est principalement fondée sur le comportement passif de la jeune femme, sans prendre en compte son état de sidération. La Cour note aussi qu'un poids disproportionné a été donné aux déclarations de l'agresseur présumé. Aujourd'hui, c'est donc un immense soulagement pour Manon.
Ça fait 12 ans que je me bats, 12 ans que j'ai l'impression de crier dans le vide et pour la première fois, on me dit que j'ai raison et que la justice française, elle avait tort de ne pas le juger.
Au-delà de l'effet de la condamnation de la France, Manon espère une évolution de la loi. Le Sénat doit encore se prononcer sur un texte intégrant la notion de non-consentement à la définition pénale du viol.
Marie Cazadebé, on le disait hier, le géant de la sidérurgie ArcelorMittal a annoncé 600 suppressions de postes dans le nord de la France. À gauche et parmi les syndicats, des voix se sont élevées exhortant l'État à intervenir. François Ruffin l'a ainsi appelé à rentrer au capital d'ArcelorMittal. L'État doit arrêter de se cacher et agir pour protéger notre industrie, insistait de son côté Sophie Binet, la numéro 1 de la CGT. À gauche, où l'on connaît les noms des prétendants au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste, ils sont trois hommes. L'actuel patron du PS, Olivier Faure, le maire de Rouen, Nicolas Mayer, Rossignol, et le député et président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallot. Ils ont un mois pour se départager. La bataille s'annonce rude. Aurélien de Vernois.
On prend presque les mêmes et on recommence. Comme en 2023, Olivier Faure tentera de défendre son siège de premier secrétaire face à Nicolas Mayer-Rossignol, qui, comme il y a deux ans, sera soutenu par la fine fleur de l'opposition interne du PS, Carole Delga, Patrick Kanner ou encore Hélène Geoffroy. À l'époque, le congrès de Marseille avait viré au pugilat, à la faveur d'un résultat extrêmement serré et contesté encore aujourd'hui, mais ça, C'était avant, qu'un troisième homme ne décide de tenter sa chance, Boris Vallot espère créer la surprise en se présentant comme le trait d'union entre deux camps irréconciliables. Il va être la tranche de jambon dans le sandwich du vote utile, estime un cadre socialiste favorable à Olivier Faure. Comprendre que Boris Vallot ajoutera de la saveur au congrès de Nancy, mais avec des chances inexistantes. Au vu des forces en présence, l'élection du premier secrétaire devrait en effet se jouer de nouveau entre Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol. Ce qui va changer en revanche, c'est que Boris Vallot sera le faiseur de roi. Aucun camp ne paraît en mesure pour l'instant d'obtenir à lui seul une majorité. La campagne risque donc de virer au jeu de séduction envers le député des Landes.
On termine ce journal avec une alerte de l'Agence sanitaire française sur les effets néfastes de deux familles de pesticides sur notamment la santé des enfants. L'alerte porte surtout sur la trentaine d'insecticides pyréthrinoïdes, encore très utilisés en agriculture et dans l'univers domestique. Lucille Lambert.
À la maison, les pyréthrinoïdes sont présents dans les bombes insecticides, dans les prises anti-moustiques, dans les lotions anti-poux ou encore dans les produits anti-puces pour les animaux. Problème, l'exposition à ces pesticides entraîne un risque accru de troubles du comportement pour les enfants à naître et pour les nourrissons et un risque accru de troubles de la fertilité et de cancer pour les adultes. L'agence sanitaire recommande donc de réduire leur usage au strict nécessaire. Mathieu Schuller de l'ANSES.
C'est très différent de se dire je suis dans une situation comparable à nos concitoyens à La Réunion et il faut se protéger des moustiques qui sont porteurs de dengue versus j'ai quelques araignées ou quelques insectes chez moi.
Quant à l'usage de ces insecticides dans les champs, l'agence sanitaire appelle à faire remonter automatiquement au niveau national les informations compilées par les agriculteurs dans leur cahier de traitement. Quelle substance a été appliquée, où, quand et en quelle quantité? Pour le moment, ces données restent dans les fermes et ne sont conservées que 5 ans.
Nous, ce qui nous intéresserait, c'est lorsqu'il y a un cluster de maladies qui est signalé dans une région, et ça arrive régulièrement. Quels sont les usages réels qui ont eu lieu et est-ce qu'on peut les mettre en regard? Et ça permettrait de conclure clairement et rapidement dans un sens comme dans un autre.
La Commission européenne avait poussé un projet de règlement en ce sens au sein du Pacte vert, mais face aux réticences agricoles, il a été rejeté par les eurodéputés en 2023.
RFI 23h11 à Liverpool.
24h en France.
Christophe Paget.
C'est un des petits gars de Liverpool, comme disait Gainsbourg, Paul McCartney. C'est aussi avec Ringo Starr, un des deux survivants du plus grand groupe du monde, à part les Rolling Stones, les Beatles. Bref, Paul McCartney, mais comme vous ne l'avez jamais vu, Hervé Bourris, le toujours passionnant auteur de bande dessinée, raconte 4 années décisives dans la vie de l'ex-scarabée. Ex, parce que dans sa BD Paul, on s'intéresse à l'après-Beatles. Hervé Bourris, au micro de Sophie Torlotin.
When you were young and your heart was an open book.
Hervé Bourris, bonjour.
Bonjour.
Paul est le 3e album que vous consacrez aux Beatles. Vous avez une passion pour ce groupe.
Oui. Là, effectivement, je me focalise sur un seul des 4, celui qui me semble le plus solaire.
Paul McCartney, donc, ouais. Et pas à n'importe quelle période, 1969-1973, la fin des Beatles et ses débuts de carrière en solo ou avec le groupe des Wings.
Oui, parce que c'est une période qui n'est pas si connue. Il y a plein d'anecdotes super drôles. Et je voulais qu'on assiste à la séparation des Beatles, donc juste après cette période de Get Back. Donc je voulais que ce soit le point de départ de cette histoire. Et la dépression qui a suivi chez Paul McCartney après cette séparation.
Et dans cette bande dessinée, avec Boris, c'est Paul qui raconte à la première personne, oui. Et aussi Linda, oui. Sa femme, photographe américaine.
Oui, c'était important pour qu'on se rapproche de lui, en fait, tout simplement. En fait, c'est assez logique parce qu'il l'a raconté, lui, plusieurs fois dans des livres. Il racontait qu'à cette période-là, effectivement, il commençait au whisky dès le matin, quoi. Il a vraiment fait une dépression et il s'en est sorti grâce à Linda. C'est aussi pour ça qu'elle est super importante dans cette histoire. Elle l'a sauvé, quoi, en fait, tout simplement.
Elle était comme Yoko Ono, mais pour des raisons différentes. Linda McCartney a été très attaquée aussi par les fans.
Oui, parce que c'est les années 70, et donc on la considérait comme une femme au foyer, qui s'occupait de ses enfants. Mais ils étaient ringards tous les deux, hein, dans les années 70. Paul aussi, parce qu'il s'occupait de sa maison, il élevait des moutons, et c'était pas du tout rock, quoi. Et Paul avait une vie qui est bizarrement plus moderne aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant.
Never Paul McCartney. Donc il fonde un groupe avec sa femme. Elle n'est pas du tout musicienne. Bon. Linda McCartney, il la met au clavier. Elle connaît rien.
Ça devait pas être simple. Paul, il a jamais voulu que les Beatles arrêtent les concerts. Ils ont arrêté les concerts en 66. Donc le premier truc, dès quand il y a eu la séparation et qu'il est sorti de sa dépression lourde, ça a été d'immédiatement reprendre les concerts, mais de façon très humble. Donc on loue un van, on engage des musiciens pas très connus, et c'est parti. Alors on est en février 71, ils sont dans un van, et ils vont avec tous les instruments, et les enfants, et les chiens, et ils vont faire la tournée des campus, mais sans les prévenir.
Les campus, les universités.
Universités. Donc c'était complètement improvisé, complètement fou.
Hervé Bourris, on découvre que Paul McCartney et le groupe, les Wings, ont enregistré un album à Lagos et ont rencontré Fela.
Oui, c'est une drôle d'histoire. En fait, ils voulaient changer un petit peu des studios londoniens. Ils se sont dit, on va aller en Afrique, là, et il y a un studio EMI à Lagos. Sauf que Fela, qui est donc le patron de Lagos, a entendu parler de cet anglais qui venait enregistrer et n'était pas content. Et il a considéré qu'il venait voler la musique africaine. Fela a été voir Paul en studio avec ses copains armés. Ils ont discuté, c'était très tendu. Mais Paul, c'est un gars de la rue aussi de Liverpool, donc il sait pas. Je pense qu'il a flippé, mais il l'a pas trop montré. Et ils ont écouté les bandes, et Fela était content, et il a considéré qu'effectivement, ils n'avaient pas du tout volé la musique africaine, et qu'ils sont devenus copains. Et Paul raconte souvent qu'il a vu ce concert au club de Fela qui s'appelle Africa Shine, où c'était un concert de 4 heures complètement dingue, et qu'il a pleuré tellement c'était beau. Ouais.
Hervé Bourris, merci.
Merci à vous.
Hervé Bourris au micro de Sophie Torlotin. Sa BD Paul est sortie chez Casterman, et là on écoutait Band on the Run, extrait de l'album du même nom, sorti en 1973. À écouter aussi, mais c'est un avis personnel, le deuxième album de Paul McCartney, Ram, R-A-M, Ram qui signifie bélier. On va maintenant revenir sur le procès de Joël Le Skouarnec, qui se poursuit devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes, dans l'ouest de la France. L'ex-chirurgien est accusé de 300 viols et agressions sexuelles sur des patients majoritairement mineurs au moment des faits. Depuis le début de l'audience, il y a tout juste 2 mois, Joël Le Skouarnec reconnaît les faits. Il formule régulièrement des excuses, il assure en avoir fini avec les mensonges. Cette démarche de vérité ne convainc pas les victimes, les nombreuses victimes qui défilent à la barre, persuadées que l'homme ne s'est pas débarrassé de ses fantasmes pédocriminels. Le reportage à Vannes de Baptiste Coulon.
Dès les premiers jours de son procès, Joël Le Skouarnec collabore, répond aux questions des magistrats. Face aux caméras, son avocat Maxime Tessier ne manque pas de le mentionner.
Vous avez un homme qui est dans une démarche de reconnaissance, de coopération et jamais, jamais de minimisation. Monsieur Le Skouarnec donne des explications, ne se moque de personne, au contraire.
Depuis, l'accusé a reconnu devant la cour sa culpabilité pour l'intégralité des faits. Ses crimes n'étaient donc pas des gestes médicaux comme il le soutenait jusqu'à. Alors, une démarche de vérité globale qui a le mérite d'exister, concède Francesca Satta, mais cette avocate de parti civil pointe une limite.
Ce que je lui reproche aujourd'hui, c'est de nier l'individualité de chacune des victimes. Chacune d'entre elles qui passe à la barre n'a pas de sa bouche la reconnaissance de son visage. Je peux comprendre qu'il puisse ne pas se souvenir des 300 et quelques victimes qu'il a pu faire. Je ne peux pas comprendre qu'il n'en reconnaisse aucune.
Une amnésie volontaire qui a un double objectif selon cette avocate. Échapper à certaines questions de la cour, garder la maîtrise des débats. Sa consoeur Frédéric Giffard ne dit pas autre chose.
Il refuse absolument de considérer qu'il a pu, par exemple, poser des indications médicales pour pouvoir ensuite opérer un enfant qu'il avait le projet de violer. Et ça, c'est aussi pour lui une façon de garder le contrôle sur ce qu'il veut rester, c'est-à-dire un chirurgien valable qui coexistait avec un pédophile. En fait, il créait, grâce à son travail, les conditions de possibilité de ces infractions.
J'ai pu lui donner les uppercuts vocaux par mes mots. Ce passage, en effet, m'a permis de tourner une page.
Manon s'est confrontée à son agresseur il y a 1 mois. Un passage à la barre avec une autre victime de Joël Le Skouarnec qui lui a permis de mesurer, dit-elle, la perversité de l'ex-chirurgien.
La plupart des victimes qui lui demandent de ne pas s'excuser, il le fait quand même. Il dit, mais moi, c'est le seul moment où j'ai mes victimes face à moi, donc si je le fais pas là, je pourrais jamais le faire à un autre moment. Et donc, je me fais loi de m'excuser à chacune de mes victimes. Ce qui est pas vrai, puisqu'il ne s'est pas excusé ni pour elle ni pour moi, parce qu'on a été deux à le déstabiliser. excusée quand on est passé à la barre.
Quand elles sont prononcées, ces excuses sonnent faux.
Est-ce que ce serait pas pour qu'il ait une remise de peine ?
C'est l'avis de Morissette Vinet. Avec Roland, son mari, ils vont faire entendre à la barre dans quelques jours la voix de Mathis. Leur petit-fils s'est suicidé 3 ans après avoir appris qu'il était l'une des victimes de Joël Le Squarneck.
On va lui dire qu'il a tué Mathis. On ne peut pas dire autrement. On lui avait dit à Mathis, on sera toujours à côté de toi. On lui avait promis, on continue.
Le face-à-face avec l'accusé est nécessaire, disent-ils, mais aucune de ses paroles ne les apaiseront.
Un reportage de Baptiste Coulon.
Le journal des Outre-mer.
En Nouvelle-Calédonie, ce jeudi, c'était le 3e et dernier jour de travail pour la conférence fiscale et sociale lancée par le gouvernement local. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. Au menu des discussions, un sujet brûlant, forcément brûlant, une réforme de la fiscalité. Réforme pour la rendre, autant que faire se pourra, plus juste et, tant qu'à faire, plus lucrative. Medjiko Pecheisi.
Pendant 8 mois, on a passé nos soirées à mendier des sous à la France et on souhaite que ça s'arrête. Voilà comment Christopher Gigès a mis directement les pieds dans le plat. Le système fiscal calédonien ne fonctionne plus. Il faut absolument le réformer. Sur ce point, entrepreneurs, syndicats particuliers présents ce matin étaient d'accord avec le membre du gouvernement en charge de la fiscalité. Mais c'est la méthode et notamment avec quel système fiscal que les débats se sont attardés. Le constat est clair, l'impôt sur le revenu a engendré des rendements de 13 milliards de francs en 2024. Plus de 59% de l'imposition est supporté par 5% des foyers les plus aisés du territoire. Pour l'impôt sur les sociétés, 7% d'entre elles supportent 90% de l'impôt. Et les rendements pour 2025 devraient baisser suite à la crise insurrectionnelle de 2024. Certains dans la salle ont pointé dans les débats le manque d'équité fiscale. Ce matin également, une vidéo de comparaison du système fiscal avec plusieurs pays a été diffusée. L'Australie, Fidji, la Polynésie française et étonnamment l'Estonie et la Finlande. Comparer le plus large possible avec des points de correspondance pour aiguiller au mieux les discussions cet après-midi. Le public dans la salle semblait déçu des propositions. Autant vous dire que les débats cet après-midi vont être pimentés.
Direction l'Amérique du Sud avec ce coup de filet sur l'un des plus gros réseaux de logistique d'orpaillage illégal en Guyane. Ce démantèlement d'une ampleur inédite a permis la saisie d'une 10aine de tonnes de matériel destiné au site clandestin. 3 individus ont été mis en examen. Au micro de Jean-Marc Dabreux, je vous propose d'écouter le général de gendarmerie Jean-Christophe Saint-Yves et la procureure de la République de Cayenne, Aline Clairaut.
Cette enquête a commencé déjà à partir du contrôle des flux qui a été mis en place sur la RN2. La RN2, c'est cet axe qui relie Cayenne au Brésil, qui relie Cayenne à Saint-Georges-de-l'Oyapock puis au Brésil, et qui effectivement sur cet axe on a mis en place des contrôles très très réguliers et qui a permis d'intercepter un certain nombre de véhicules remplis d'orpaillage illégal.
Il est certain que pour faire en sorte d'acheminer des quantités phénoménales, 10 tonnes de biens, de matériel, de vivre au bénéfice de ceux qui sont en forêt et qui procèdent à ce grattage de la terre au bénéfice de la découverte d'or de manière parfaitement illégale, il faut naturellement en amont toute une organisation permettant de stocker, d'acheter évidemment préalablement l'ensemble de ces biens. Et de fait, cette porosité est tout à fait évidente, mais pas nouvelle. Elle est néanmoins, grâce à cette enquête, largement mise en lumière.
Retour dans l'océan Pacifique pour terminer avec le label Fenua Original, créé en 2023 et qui tente de se faire sa petite place sous le soleil de la Polynésie. Le label certifie, c'est en tout cas le principe, que les confections artisanales soient bien fabriquées sur place et avec des matières locales. Reportage Axel Mézinel.
Bientôt 3 ans que Michel Tevaïté a monté son activité d'artisanat traditionnel. Après une autre vie dans l'aérien, elle s'exprime dans l'art floral. Michel Tevaïté est désormais certifié Fenua Original.
Le fait d'obtenir ce label, c'est une reconnaissance. Ce label sert à authentifier nos créations, c'est mettre en avant nos matières premières Ça me donne une crédibilité et un cachet aussi d'avoir ce label, une reconnaissance.
Au milieu de d'autres labels, Fénoua Original a une place particulière, explique Vaiana Giraud, chef du service de l'artisanat traditionnel.
Cette valeur ajoutée, elle est vraiment sur l'authenticité du produit et le lien avec le patrimoine culturel. Parce que, par exemple, la marque Made in Tahiti, on va la retrouver sur des détergents, sur du papier toilette ou sur d'autres types de produits qui n'ont rien à voir avec la création d'artisanat traditionnel qui peut des fois être très proche de l'art et même des fois c'est de l'art. Donc c'était important de distinguer ces produits. Si on va sur des labels plus larges comme le A2 Artisan, on ne parle pas d'artisanat traditionnel. Un charpentier, un plombier peut être un artisan. Donc c'était vraiment l'idée de distinguer ce côté artistique, patrimonial et culturel de la création artisanale.
Seule une trentaine d'artisans sont actuellement labellisés Fénoua Original. Des réticences administratives en seraient la cause.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand, bonne soirée à vous.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Cela touche même les meilleurs d'entre nous, la chute des cheveux. Caroline Paré.
Docteur Philippe Assouli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue spécialiste du cuir chevelu au centre Saboureau de l'hôpital Saint-Louis à PHP à Paris. Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser la chute des cheveux ?
Alors, ce qui favorise la chute de cheveux, c'est mille choses, dans le sens où la chute de cheveux, c'est un symptôme. C'est comme si on parlait du mal au ventre ou autre chose. Et donc, quand on a quelqu'un qui vient consulter pour un problème de chute de cheveux, il va tout de suite avancer toutes les hypothèses, toutes les théories, tout ce qu'il a pu lire. Et il faut reprendre à zéro et avoir une espèce d'algorithme dans la tête qui va faire que, est-ce que c'est une chute dans laquelle il y a une perte de cheveux? Est-ce que ça crée une alopécie? Donc, il y a un manque de cheveux? Ou est-ce que c'est juste une chute? Depuis combien de temps ça dure? Quelle est l'ascendance ethnique de la personne en question, puisque ça donne une orientation pour certaines pathologies. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, etc., etc. Et donc on arrive à des diagnostics ou un diagnostic, des éliminations de diagnostics, et on voit s'il y a besoin de faire des examens complémentaires ou pas d'examens complémentaires, c'est-à-dire une prise de sang, un prélèvement de peau, etc. Et donc c'est un terrain extrêmement vaste au début, et les vieilles théories qui étaient les théories un peu comme si le cheveu c'était comme du gazon dans lequel on met de l'engrais et ça pousse, les vitamines, les piqûres dans les fesses et autres, ça n'a vraiment aucun sens par rapport à la physiopathologie d'un problème de chute de cheveux.
Merci beaucoup docteur Philippe Assouli, aujourd'hui dans Priorité Santé, on va parler du cancer. Un oncologue à votre écoute qui répond à toutes vos questions. Rendez-vous 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Caroline Paré, c'est la fin de 24 heures en France. Merci à Mel Guyot à la réalisation, merci à Charlotte Derouin à la rédaction en chef, c'est un festival de talent. Dans quelques instants, place à Afrique Soir. Mais avant cela, on part à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
L'indice Dow Jones poursuit son redressement, engrange 487 points et revient à 40 093. L'indice du Nasdaq lui reprend 458 points et se hisse à 17 166. C'est la troisième séance consécutive de hausse pour Wall Street, dans l'espoir d'une désescalade dans la guerre commerciale. Pourtant, les autorités chinoises démentent les propos de Donald Trump selon lesquels des discussions entre les deux pays ont repris. Pékin maintient que l'élimination des surtaxes massives récemment annoncées par Washington est une condition de l'engagement de négociations. Wall Street parie sur le fait que la Chine a intérêt à engager de telles négociations. Toutefois, certains jugent que le gouvernement chinois peut se montrer bien moins pressé que l'administration américaine, qui, elle, est sous la pression des marchés, des milieux d'affaires et de l'opposition démocrate, alors que la conjoncture aux États-Unis faiblit. Le marché obligataire, bien orienté aujourd'hui, soutient les marchés d'actions. Le rendement du T-bond à 10 ans retombe à 4,31. Quelques résultats trimestriels meilleurs que prévus soutiennent la tendance. La société de jouets Hasbro ou encore le géant des semi-conducteurs Texas Instruments. Procter & Gamble, à l'inverse, déçoit. Le leader des produits d'hygiène anticipe une stagnation de ses ventes cette année en raison de la guerre commerciale avec la Chine. L'or repart à la hausse, gagnant plus d'1% et l'euro remonte à 1,1390 $. le pétrole américain s'offre moins d'1% pour revenir à près de $63 le baril. Le Dow Jones regagne 1,2%, le Nasdaq récupère 2,7%.
C'était Pierre-Yves Dugas, merci.
8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème de demain.
À l'occasion du sommet Change Now, l'exposition universelle des solutions pour la planète à Paris, nous donnons la parole aux femmes engagées dans la transition écologique et féministe sur le continent.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Le grand sud de Madagascar, habituellement en proie à la famine et à la sécheresse, fait aussi face aux cyclones et aux tempêtes. Des phénomènes naturels aggravant les problèmes d'accès à l'eau et aux services d'assainissement. Quelle solution pour les populations locales ?
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.